Bonsoir à tous et bonsoir Arnaud Catherine.
Bonsoir, ça fait très conférence là.
Oui, vraiment. Alors, on est évidemment ravis de vous accueillir ce soir. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de venir à votre rencontre, notamment pour des ouvrages parus aux éditions Verticales il y a quelques années. Et je me demandais si c'était la première fois qu'on vous accueillait ici, à la librairie Mola.
À Mola ?
Oui.
Oui, je viens de découvrir la ville dans la ville que c'est. On est rentré par une entrée, je ne sais pas où, mais en tout cas, on a traversé à peu près 352 salles remplies de livres. Et j'avoue que c'est quelque chose d'assez exaltant de savoir que ça existe, des librairies aussi grandes. Voilà. Je connaissais la librairie de Bannon, je ne sais pas si vous connaissez, dans le sud, hein, qui est énorme, pareil, dans un tout petit village dans le sud. Et voilà, bref, moi, je suis toujours ravi de voir des librairies gigantesques.
Alors, bienvenue d'ailleurs en cette année, en cette fin d'année d'anniversaire, puisqu'on fête toujours nos 120 ans d'existence. Alors, vous avez publié plus d'une vingtaine d'ouvrages, que ce soit en littérature adulte, jeunesse, notamment dans la collection Medium chez École des loisirs. Vous revenez cette fois pour un roman qui s'intitule donc « À la place du cœur », paru dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc plutôt à destination des adolescents, mais pas seulement. Tant mieux pour vous, on va le voir. Et donc là, il est question de Côme. On va passer 6 jours dans la peau de Côme. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre personnage principal et surtout le chamboulement qui est en train de le traverser ?
Alors Côme, oui, c'est un lycéen qui s'apprête à passer le bac. On est en janvier 2015. C'est un adolescent comme les autres, c'est-à-dire qu'il aime ne rien faire plutôt que travailler, qu'il pense beaucoup aux filles, et notamment à une fille qui s'appelle Esther, dont il estime qu'elle ne le regarde pas assez, à son goût. Il est brouillon, il est plein de pulsions de toutes sortes. Il ne sait pas trop ce qu'il veut faire de lui, ce qui est, hélas, j'ai l'impression en ce moment, une spécificité de beaucoup d'ados. Par rapport à l'époque où moi j'étais adolescent, où je rencontrais beaucoup plus des gens qui avaient pas des idées fixes forcément très tôt, mais enfin qui avaient quelques désirs choisis. Et j'ai de plus en plus autour de moi des adolescents qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes, et ça m'interroge beaucoup. Alors j'ai voulu que ce Côme-là soit tel, dans une indécision qui l'angoisse un petit peu. Et puis, il va se passer, au début du roman, deux choses très contradictoires. C'est que Esther, cette fille qu'il aime en fait secrètement, va enfin prendre acte de son existence et un rapprochement amoureux va s'opérer dès les premières pages du livre. Et donc au moment où ce qu'on peut appeler une passion va commencer, eh ben c'est les attentats de Charlie. Donc c'est le contraire en fait, c'est le contraire. Au moment où en lui naît la passion, la mort va frapper de façon sauvage et barbare à quelques kilomètres de son petit village du centre de la France, c'est Charlie. Voilà. Donc toute la semaine qu'on va passer avec lui, c'est cette semaine paradoxale, contradictoire, où il va être tiraillé entre le plus beau, la passion amoureuse, et le pire, à savoir des meurtres sauvages et barbares.
Et justement, j'ai lu un passage que je trouve très évocateur de ce tiraillement qui le traverse, à la fois son envie de se laisser happer dans le plus bel événement de son existence, à savoir sa première relation amoureuse, et en même temps la sidération. Donc je voulais savoir si vous vouliez bien nous lire cet extrait.
J'obéis. Si quelqu'un sait quoi faire de ce qui arrive dans mon bide et dans ma tête, qu'il me le dise au plus vite. À Paris, des gens sont morts. Et pendant ce temps-là, je ressasse comme un crétin. Je voudrais notamment comprendre pourquoi Esther n'a pas pris la peine de m'écrire que tout va bien pour son frère. Indécent, pas vrai ? J'ai honte. Voilà la vérité. Et la honte ne date pas d'aujourd'hui. J'ai honte depuis mercredi matin. Honte d'être amoureux. Honte d'être tout à mon obsession et de n'être pas totalement assailli, quoique assailli quand même, par la sauvagerie qui paralyse mon pays. Impression de ne pas avoir le droit de vivre ça. Est-ce ma faute si le pire et le meilleur sont survenus au même moment ? Ça va, c'était décent comme passage.
Bien sûr, toujours.
C'est toute la problématique, effectivement, de Côme. La culpabilité qui naît de cette contradiction entre l'amour et ce qu'on a tous vécu en 2015, et malheureusement par plusieurs fois, à savoir la sidération, l'effroi induit par ce qui se passait dans notre pays et qui était de l'ordre de l'inimaginable et de la barbarie. Et un adolescent, fatalement, c'est quelqu'un qui est en devenir, c'est quelqu'un qui ne sait pas toujours quoi faire de soi. Enfin, ça nous concerne aussi un petit peu en tant qu'adulte, mais l'adolescence, c'est le moment où justement on commence à prendre position dans certaines situations de la vie. Et alors lui, il est complètement égaré. Il sait vraiment, vraiment pas quoi faire du bonheur d'aimer dans une semaine où en fait il n'y a que ce couperet de la mort partout, à la télé, dans les consciences, dans les cauchemars, dans les nuits.
Et cette culpabilité-là, on la comprend très bien, puisque je pense qu'on l'a tous un petit peu vécu, c'est-à-dire se sentir coupable de continuer à faire des projets, d'aimer nos proches, vraiment de faire en sorte que la vie continue, puisque je pense, j'espère que la vie est quand même la plus belle revanche sur la mort, sur tout ça.
Je pense que c'est quelque chose que peut-être nous, adultes, on a formulé. Peut-être pas cette semaine-là, la semaine de Charlie et de l'hypercachère, mais assez vite, on s'est mis à se dire, oui, on espère que la jeune génération va garder l'insouciance et la joie, puisqu'ils y ont droit de plein pied. Mais eux, je ne sais pas si ils se sont tout de suite dit ça. Moi, j'ai pas mal de jeunes autour de moi qui m'ont dit, l'histoire de notre génération commence funestement cette semaine. Au sens de l'histoire de notre génération, au sens où voilà, il y a des générations qui ont été marquées par la guerre, des générations qui ont été marquées par le droit à l'avortement et l'abolition de la peine de mort, ou par l'Algérie, ou par mai 68. Je crois qu'il y a une génération là, à qui on souhaite d'être la plus heureuse possible, mais dont l'histoire, avec un grand H, aura commencé par Charlie. Et j'ai pas plus de commentaires à faire que ça. Juste, ça m'interroge et j'ai voulu le mettre en scène dans un livre. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça ? Et est-ce qu'ils vont être capables de persister dans la joie et l'insouciance, voire l'inconséquence ? Parce qu'une vie doit être faite de moments inconséquents et inconscients et insouciants. Sinon, c'est pas du jeu, comme on dit.
Et justement, en parlant un petit peu de pulsion de vie, pour connaître tout à fait Côme, il faut savoir qu'il a donc 17 ans, les hormones en ébullition, et ça ne se contrôle absolument pas. Il en parle avec beaucoup de franchise et sans filtre du tout, ce qui donne lieu à un vocabulaire parfois cru. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangée. Je sais que certains lecteurs, et plutôt lectrices, ont été pour le moins désœuvrés. Et je pense néanmoins que ce récit n'aurait pas eu la même saveur et pas la même force si Côme avait eu un langage châtié, puisque je pense que ce sont les choses de la vie. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe dans la tête d'un garçon de 17 ans qui...
Écoutez, moi, quand j'écris pour la jeunesse et quand j'écris tout court, l'idée, c'est quand même d'essayer de dire un peu la vérité, ou en tout cas de sonner juste, comme on le dit, d'un instrument qui sonne juste, de ne pas être trop désaccordé, quoi. Et je me souviens que quand j'étais adolescent, on me mettait dans les mains des livres que je trouvais extrêmement aseptisés, mièvres, qui évitaient avec beaucoup d'application tout ce qui, moi, me tournait en tête. Donc c'était souvent, c'est vrai, le sexe, la mort, ces choses-là. Et quand j'ai découvert que la littérature jeunesse avait énormément évolué, notamment grâce au travail de Geneviève Brisac à l'École des loisirs. Ça m'a donné envie d'écrire des livres pour la jeunesse, mais pour justement écrire les livres que je ne pouvais pas lire quand j'étais ado, parce qu'ils n'existaient pas encore. Et donc la grande affaire, quand même, c'est de mettre les pieds dans le plat. La grande affaire, c'est de repousser la ligne jaune. La grande affaire, c'est d'employer des mots justes. Et il y a certaines situations, les enfants me le font souvent remarquer, hein, qu'il y a beaucoup de gros mots, etc. Mais je leur explique aussi que le but, c'est de ne pas être ordurier de la page 1 à 350, mais c'est juste que si Micheline tombe, elle ne va peut-être pas dire flûte, elle va peut-être dire merde. Et un livre, ce n'est pas un devoir de classe. Donc, si on n'en abuse pas, si c'est parcimonieux et si c'est juste, je trouve qu'on peut aller chercher dans un lexique familier, voire grossier. C'est juste pour la, ouais, c'est juste pour la justesse de l'instrument. Et donc Côme, effectivement, il est aux prises avec ses pulsions. C'est un adolescent et je voulais pas, enfin j'aurais trouvé faux d'édulcorer son langage, de pas avoir le ce qu'on aime en plus chez les ados, c'est-à-dire que c'est sans filtre, ils sont crus, ils sont directs. On est parfois obligé de les remettre dans le droit chemin parce que non, on dit pas ça dans telle situation, s'il te plaît, tu emploies un autre vocabulaire, merci. Mais ils le disent, donc le roman, il est là pour prendre ça en charge.
Et justement, c'est pas, enfin, j'imagine que c'est pas si compliqué de se mettre dans la tête d'un ado de 17 ans, un garçon notamment, ou alors on a juste à se remémorer ses propres souvenirs.
Ça dépend qui vous êtes, ouais. Moi, je sais que j'écris très peu de livres pour les jeunes enfants parce que je me souviens très peu de l'enfant que j'étais. J'ai travaillé sur le divan du psychanalyste, mais j'ai pas de souvenirs très sensibles de ça. En revanche, l'ado, je me souviens vraiment, vraiment par cœur de qui il était. Et donc, je n'ai pas de mal à le convoquer pour écrire ces livres-là. Après, les temps changent, le langage aussi. Il y a les réseaux sociaux qui ont débarqué, les textos, tout ce qu'on sait. Et quand on écrit pour la jeunesse, donc à destination jeunesse, on prend quand même toujours le risque d'être à côté de la plaque. Donc, c'est bien d'avoir quelques modèles dans son entourage quand même. Donc, j'ai quelques ados que je pille allègrement. Et puis, quelques ados qui me lisent et qui me disent de temps en temps, « Tonton, là, non. » Non, non, on ne dit plus ça maintenant. Donc, voilà. Mais toujours repartir de soi, je pense, ouais, parce que passer le langage, il évolue de toute façon. Passer le langage, il y a ce qui se passe dans un corps adolescent, ça, on l'a encore en soi ou pas. Il faut repartir de là. Tout comme j'ai souhaité évoquer les attentats de janvier, de l'endroit où j'étais, moi, en janvier. C'est-à-dire que, contrairement à novembre... au 13 novembre où j'étais à Paris et où ça se passait en bas de chez moi de fait là en janvier j'étais à la mer en Normandie en train d'écrire et donc j'ai tout suivi à distance à travers les écrans et je, voilà, pour parler de ça c'est tellement hier, c'est tellement délicat que je me suis dit que mon Côme vivrait tout ça comme je l'ai vécu. Je voulais pas m'éloigner de mon expérience de ça parce que tout comme pour le tome 2 j'aurais jamais eu l'idée de mettre mon héros au Bataclan alors que j'y étais pas. Et voilà, il y a un minimum de décence, quoi.
Et d'où la volonté peut-être de nommer cette ville uniquement par sa première lettre.
Ouais, c'est une ville emblématique du centre de la France ou même pas du centre. C'est une ville moyenne française. Et s'agissant des attentats, je pense que là, on est tous les mêmes. Hein. On était tous dans le même bateau. Où que l'on ait été. À moins de vivre à 2 cm de chez Charlie, on a tous ressenti là, un peu la même chose. Quoi. C'était pas chez nous et en même temps c'était notre pays, et c'était nos caricaturistes, c'était notre culture. Et... Donc voilà, donc je veux pas dire que c'est universel comme situation, mais enfin je voulais pas situer les choses de façon trop précise pour que quelqu'un de Rennes, de Nantes ou de Sancerre ou de Mulhouse puisse s'y retrouver éventuellement. Ou de Bordeaux.
Pourquoi pas. Mais y a eu donc une production littéraire douloureuse, mais je pense nécessaire aussi, qui est née de tout ça. Et justement, il y a 15 jours, on recevait Vincent Villeminot qui écrit, lui... un ouvrage sur les attentats qui sont déroulés au Bataclan, donc qui s'appelle donc 14 novembre. Il nous confiait que plusieurs de ses amis auteurs depuis n'avaient pas pu écrire une seule ligne. Mmh. Est-ce qu'au contraire chez vous il y a eu une sorte de sentiment d'urgence ou un besoin presque cathartique ou ça a pris plus de temps?
Ouais, c'est intéressant. Il y a eu un moment de suspens qui a duré un an. Relatif suspens parce que pendant tout 2015, j'écrivais un album de chansons avec Florent Marché, qui a un album qui est sorti là, qui s'appelle Frère Animal, et qui est, dont le propos est assez politique. Donc on était quand même, pendant l'écriture de cet album, en prise avec le réel. Mais moi, j'écrivais pas de livre et j'en ressentais ni le besoin, ni l'envie, ni quoi. Je me sentais vraiment entre parenthèses. Je savais qu'une chose, et ça c'est né d'une conversation que j'ai eue avec une romancière que j'admire énormément, qui s'appelle Virginie Despentes. Elle me disait, tu verras, elle avait publié 2 tomes d'une série qui s'appelle Vernon Subutex, et elle devait enchaîner sur le 3e, et elle était totalement bloquée. Et elle me disait, je peux pas reprendre parce qu'il y a eu Charlie, l'hypercachère, et le Bataclan, et tous les bars qu'on connaît. Et je sais que le tome 3 devra prendre ça en compte, ne pas forcément traiter exclusivement de ça, mais ça rentrera dans le livre. Et elle me disait, je sais pas comment faire, comment m'y prendre. Et j'y songeais, et je me disais, mais moi c'est la même chose pour l'instant, j'ai pas envie d'écrire autre chose qu'un livre qui prenne ça en compte, mais comment faire? Et puis je crois que c'est vraiment au lendemain du 13 novembre, qui a été une expérience pour moi un peu différente de janvier. On va pas faire de hiérarchie et tout ça, mais au 13 novembre c'était vraiment carillon, c'était en bas de chez moi, donc on vit les choses nécessairement un peu différemment. Je suis passé devant 10 minutes avant, quoi. Hasard et coïncidence, hein, pourquoi moi je suis passé et pourquoi d'autres y étaient et sont morts. Et là, je me suis dit, bon bah ouais, urgence, vous prononciez ce mot. Je me suis dit, allez, on repart dans la vie, dans l'écriture, mais dans la vie. Pour ça qu'il y a une histoire d'amour dans la place du cœur. Mais il y a un moment, il y a Charlie qui va intervenir et l'hypercachère. Et voilà, et ces événements tragiques vont rentrer dans le livre. Même si au début, non, si c'est pas le sujet, quoi. Donc ça s'est passé comme ça, une longue parenthèse d'un an. Et puis, une urgence à faire les choses. Et je me souviens, j'ai appelé le directeur de la collection R, qui s'appelle Glenn Tavnek, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai dû l'appeler le 1er janvier, quoi, en lui disant, j'ai un projet, est-ce que je peux t'en parler? Et puis, je me suis mis à écrire le 3 janvier, et j'ai terminé le 20 avril. Enfin, ça a été super vite. Donc, l'écriture, elle a été portée par une relative urgence, ouais.
Et vous voyez le publier dans la collection R, où il y avait d'autres...
Ouais. Oui, ah c'était, oui. Oui. C'était un projet, parce que c'est un projet voilà, pour... pas pour les ados, pas pour les gens de 10 ans, quoi. Mm-hmm. C'est plutôt pour on appelle ça jeunes adultes, donc vous et les adolescents. et je voulais le faire dans R, parce que c'est une collection qui est super culottée, et cet éditeur est très, très audacieux. Il n'a pas froid aux yeux. Et pour essayer de faire des livres dignes de ce nom, il faut, je pense, à la base, avoir un éditeur qui n'a pas froid aux yeux. Parce que si on commence à se mettre des œillères, des frontières, des lignes jaunes, des petites peurs par-ci par-là, est-ce qu'on peut parler de ça aux adolescents ou pas? C'est sûr qu'on fait de la composition édulcorée, aseptisée. Donc, je savais que Glenn Tavnek allait m'emmener encore plus loin que là où je voulais aller.
Oui, on sent
parce que moi, j'ai besoin d'être poussé dans l'écriture. Et dans la vie aussi. J'ai besoin qu'il y ait des gens qui me disent « c'est ça que tu veux t'autoriser ?» Eh bien, vas-y. Florent Marché, il a fait ça avec le chant. Je suis revenu au chant et au piano parce qu'il m'y a poussé. Et j'ai toujours des éditeurs qui me poussent à aller plus loin que là où je n'aurais été tout seul. D'où la collection R, voilà. Ouais.
Et pour en revenir un petit peu à Côme et d'autres personnages, parce que lui, il vit bien sûr entouré de ses amis... d'Esther, donc la fille qu'il aime. Je pense notamment à d'autres personnages qui sont secondaires, mais que j'ai trouvé très importants dans l'histoire, notamment cette prof de philo et de théâtre, Madame Barsac, qui est la seule qui a eu l'audace d'oser parler de tout ça avec les adolescents, puisqu'on comprend vite que d'autres professeurs, à partir du moment où ça sort du cadre de leur cours, ils n'y vont pas, ce qui peut se comprendre aussi. Je pense que c'est problématique, mais en tout cas, elle les traite en adultes. C'est-à-dire qu'elle pose les choses à plat. Et là, on va entendre tous les types de discours, tout ce qu'on a entendu d'ailleurs suite à ces événements-là. Et oui, je la trouve très intéressante, cette professeure.
C'est assez exaltant quand même, quand on sait ce que c'est que le métier de professeur. C'est assez exaltant... une fois de temps en temps, de se payer un beau personnage de professeur, parce que moi, c'est une des professions que j'admire le plus, peut-être avec les gens qui travaillent dans la médecine. Et ils ont eu une responsabilité, cette semaine-là, démente, quoi. Parce qu'il y a plein de mômes qui ne savaient pas ce que c'était que Charlie, et puis plein d'adolescents et d'enfants qui étaient complètement sous le choc, qui savaient pas, qui ne comprenaient pas exactement les tenants et les aboutissants, pourquoi tuer des caricaturistes. Donc, et les parents et les professeurs, ils ont eu une responsabilité très importante cette semaine-là. Et puis de toute façon, voilà, ce sont les professeurs qui accompagnent les enfants dans leur devenir un nombre d'heures incalculable. Et je trouve que ce sont des gens qui ne sont pas assez reconnus en France, qui ne sont pas assez considérés, qui ne sont pas assez payés pour ce qu'ils font. Et parce qu'il faut beaucoup d'endurance et de talent et de générosité pour faire ce métier. Et donc ça me faisait plaisir, voilà, de... C'est une héroïne, cette femme, en fait, hein, au sens romanesque. C'est une belle héroïne. Et elle essaye de parler avec les adolescents de cet événement de Charlie. Et elle essaye de ménager les uns et les autres, parce qu'il y a une jeune musulmane dans la classe qui se sent, qui devance l'amalgame qui va être fait. Donc elle est obligée de la rassurer. Elle en a un autre au fond de la classe qui dit « Mais Charlie, ils l'ont bien mérité ». Il y a les autres qui sont sur les sites complotistes, parce qu'il y en a beaucoup d'adolescents qui sont atteints, j'emploie le mot à dessein, par ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce creuset de paroles contradictoires ? C'est une drôle de responsabilité. Voilà. Donc je voulais que ce soit dans le livre aussi, ça. Ces scènes de classe dont on m'a parlé aussi après, parce que je vais souvent faire des interventions en classe. Et je crois que les profs, cette année-là, ils ont eu du fil à retordre, hein, encore plus que d'habitude.
Oui, parce que ce qui est compliqué, et je pense le vrai paradoxe, c'est qu'on se retrouve en face de jeunes qui ont 17 ans, qui vont bientôt pouvoir voter, qui doivent se déterminer professionnellement. On exige d'eux qu'ils se comportent en adultes. Et d'un autre côté, on se rend compte qu'on ne les considère pas comme étant encore assez adultes pour parler des vraies choses de la vie. Et moi, je trouve ça absolument tragique. Parce que c'est leur futur à eux aussi.
Il y a des gens merveilleux et puis il y a des cons, quoi. Mais ce sont quand même des gens qui sont en train de naître. C'est une éclosion. C'est bien pour ça que c'est passionnant et parfois désespérant et décourageant. Mais c'est une éclosion. Donc il faut accueillir les fulgurances et les belles choses qui naissent. Mais il faut toujours garder en conscience qu'ils ne sont pas totalement adultes et dans une conscience mûre. Donc il faut toujours être prêt à faire garde-fou.
Et puis il y a la parole des parents qui revient souvent aussi, enfin, je veux dire, comme modèle.
Voilà, les parents dans le livre, je me suis un peu amusée. Ouais. Je voulais que... Parce que même s'il y a une histoire d'amour dans ce livre, il y a quand même les événements de janvier, donc c'est parfois un peu lourd. Donc je voulais qu'il y ait des scènes de comédie. Et donc je me suis un peu amusée à mettre en scène des parents qui sont un peu maladroits et drôles, je l'espère. Oui, c'est-à-dire qu'ils se bouffent le nez toute la journée et leur gamin... Et un peu au milieu, en se demandant si on va le regarder à un moment donné.
Oui, et on sent de l'amour, énormément d'amour aussi.
Mais tout ça se passe dans l'amour, hein, mais l'amour est parfois un beau bordel où il faut revendiquer sa place et demander à être regardé.
Et je trouvais qu'il y avait un autre aspect intéressant dans votre roman, c'est le traitement de l'information. Comment on a accueilli cette nouvelle, puisque finalement, on se souvient... tous, je pense, des attentats du 11 septembre, d'avoir vu ces images en boucle défiler toute la journée, de nous, les yeux rivés à l'écran. Et finalement, est-ce qu'on a retenu la leçon ou pas ? J'ai pas l'impression.
Ouais, je pense. Moi, c'est la première expérience, effectivement, que j'ai eue de l'info en continu. Ces tours à New York qui s'écroulaient, que j'ai revues. Alors comme j'étais vierge de ça avant, ce jour-là, je me suis fait happer, le 11 septembre, et j'ai dû rester devant la télévision de 9h du mat à je ne sais pas quelle heure. Alors là, on savait, mais est-ce qu'on peut résister à ça ? Moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Je sais juste que là, je l'avais un peu plus en conscience pour la semaine de janvier et pour le 13 novembre. Alors je ne cessais d'aller et venir, quoi. Je revenais à l'écran, je me faisais happer par l'écran, mais parce que je voulais savoir aussi... Et puis je me forçais à en repartir. Et c'est là un petit peu que, le 13 novembre notamment, que l'idée d'écrire un livre pour la jeunesse sur ce sujet-là est née. C'est que je me suis dit, bon, moi, à la limite, j'ai un peu plus de maturité. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça aussi ? Ça, c'est une question. Parce que y a un truc très équivoque et ambigu qui me gêne beaucoup dans ce flux d'informations qui sont en boucle, d'ailleurs. C'est qu'il y a des moments, ça tend à devenir un film à suspense. Et donc, ça déréalise les choses. Je me souviens notamment du vendredi de l'Hypercacher et de Damartin, où à un moment, on a eu l'écran scindé en deux, les présentateurs qui étaient en tout petit en bas à droite. Et en gros, c'était la mort en direct, quoi. C'est-à-dire qu'on assistait en direct à ce qui allait se passer à l'hypercachère pour libérer les otages. Et on suivait ce qui se passait à Dammartin aussi. Donc c'était comme un film à suspense. Et il y a des moments, moi j'ai envie de dire, je ne veux pas être là, je ne veux pas assister à ça. Est-ce que j'ai le droit, en fait ? Tout comme quand on me montre des images que je regrette après d'avoir vues. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a certaines chaînes d'infos qui se sont fait taper sur les doigts en 2015. Parce qu'ils ont diffusé des choses qu'on n'aurait pas dû voir, en fait. Et alors, quand il s'agit en plus d'ados, je me souviens notamment un autre exemple, mais il y en a plein, hélas. Pour Charlie, il y a une image qui a été diffusée sur Internet d'un des policiers qui se fait tirer à bout portant sur le trottoir. Ça a tourné pendant un quart d'heure. Ça a été retiré, mais entre-temps, ça avait été moult fois relayé. Et il y a plein d'ados qui ont vu ça, quoi. Quelqu'un se faire tuer en bas de Charlie, en direct.
Mais c'était une vidéo amateur, c'est ça ?
Ouais, mais il y a quand même des sites qui ont relayé cette vidéo. Il n'y a pas cette surveillance qu'il devrait y avoir. Moi, je revendique le droit de ne... Il y a des choses que je ne veux pas voir, c'est tout. Je veux bien être informé, je ne demande que ça. Mais il y a des choses que je ne veux pas voir. Et voilà. Bref, donc il y a toute cette problématique dans le livre aussi, fatalement, parce qu'ils sont tous, le vendredi, ils sont tous devant la télé. Et alors, il y a des débats dans le groupe. Esther, qui est de loin la fille la plus évoluée du groupe, la plus intelligente, à un moment, secoue les mecs en leur disant « Mais il faut se détacher de cet écran, c'est pas possible qu'on assiste à tout ça en direct, quoi. On reviendra dans une heure voir si ça a évolué. » Et les garçons du groupe, ils sont arrimés à l'écran. Et il y en a même un qui dit « Mais attends, on va pas arrêter maintenant s'il se passe quelque chose dans 5 minutes. » Donc c'est bien qu'il y a comme une narration horrible qui est fabriquée par l'espace médiatique. On fait du réel le plus terrible, une narration, et les médias, pour faire de l'audimat, en tirent une dramaturgie. C'est terrible. C'est une évidence, hein, ce que je dis. Mais on est plein à le dire, je suis sûr on est plein à le penser, il n'y a rien qui change. Et on voit ces pauvres présentateurs qui, pendant 3 heures, n'ont rien à dire, qui répètent en boucle les mêmes choses. Ça doit être très fatigant pour eux, en plus. Bon, c'est absurde.
Mais je me suis demandé, justement, si au moment du 11 septembre, il y avait déjà toutes ces chaînes d'information en direct et en continu.
Pour les tours du World Trade Center, oui, bien
parce
sûr.
On a revu les images, mais moi, je n'ai pas le souvenir d'être rivé sur une chaîne comme BFM, iTélé.
Je peux vous dire que oui, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va tous partager à l'avenir. Je pense qu'on se souviendra tous, toujours, de où on était quand on a su pour Charlie, de même pour le 13 novembre. Et moi, je me souviens pertinemment mon ancien appartement à Paris, à Montparnasse, pour les tours du World Trade Center. Et je me souviens être resté des heures devant ces images qui passaient déjà en boucle. Il n'y avait aucun garde-fou à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'autocensure et de surmoi dans les chaînes de télé. Et ils ont passé ça des dizaines de fois. Si. C'était le début du pire à la télé, quoi. Mm-hmm. Je ne sais plus ce que racontait ce film, La mort en direct. Ça se trouve, ça n'avait rien à voir. Mais à chaque fois que je parle de ça, je pense à ce titre de film qui était avec je ne sais plus qui, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est Romy Schneider ou quoi. Non, je ne sais plus.
Je ne l'ai pas vu.
Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est retransmettre la mort en direct. Et donc, ça va chercher dans l'être humain sur une pulsion qu'on connaît, quoi. Les jeux du cirque ont été inventés pour ça. Donc, il ne faut pas tenter les gens. Enfin, il ne faut pas nous tenter, parce que spontanément, on y va.
Il y a une pulsion morbide. Ou alors, il faut avoir l'intelligence de débrancher, mais est-ce qu'on...
Ouais, c'est ça. Mais les médias, c'est peut-être pas mal. Les médias nous forcent à être un peu plus intelligents que nous-mêmes. Bon, mais en attendant, on se laisse avoir. Parfois, on le regrette. Et il y a des enfants et des adolescents qui se laissent avoir sans savoir. Et qui, peut-être, vont traîner en tête des images qu'il aurait été mieux qu'ils ne voient pas. Voilà, c'est juste ça, quoi. C'est pas rien.
Et alors, la parole de Côme est très libre. C'est aussi le moment où d'autres types de paroles se libèrent. Peut-être moins juste, en tout cas. On va suivre Hakim, qui est le meilleur copain de Côme, qui va être une victime collatérale, parce que c'est aussi le moment des amalgames. Et donc, lui va se retrouver face à Nicolas Ballard, qui est le fils d'un papa qui est tête de liste FN. On a l'impression qu'il y en a beaucoup des Nicolas Ballard autour de nous.
C'est ce que les gens de mon quartier m'ont dit. J'habite dans un quartier à Paris, Belleville, qui est très métissé. Et effectivement, au lendemain des attentats, beaucoup de mes commerçants m'ont dit que des paroles racistes avaient été proférées, les responsabilisant de tout ça, confondant une religion et du fanatisme. Ouais, mais de toute façon, on est dans une époque où les langues se délient, hein, et où il y a des choses qui, censément, sont punies par la loi, qui sont malgré tout formulées. Je pense à la manif pour tous, où il y a des choses racistes, homophobes, qui ont été proférées. Enfin, j'ai entendu ça au Petit Journal, parce que le Petit Journal de Barthès relayait pas mal ça. Et des paroles qui ont été proférées, qui normalement sont punies par la loi et qui l'ont pas été. Mais... où je pense à Madame Taubira, voilà, qui a été traitée de banania moult fois. Ça aussi, normalement, c'est puni par la loi.
Bien sûr.
C'est un drôle de pays dans lequel on vit en ce moment, où tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent à dire des choses qu'on a mis des années à faire inscrire dans la loi que non, ça, c'est raciste, on ne dit pas. Eh bien, si, ça revient. Et donc, dans les cours de récré, c'est... M'a-t-on dit ? C'est pareil, quoi. Ça y va. C'est violent. De toute façon, on sait que la cour de récré, c'est violent.
Bien sûr, déjà.
À la base, c'est très violent. C'est le début de l'hostilité, ouais, la cour de récré. C'est le début de la société, quoi. Et c'est là qu'il faut commencer à il faut que le contrat social, ce qu'on appelle le contrat social, qui nous permet tous de vivre ensemble, il faut que le contrat social soit avéré et efficace dès la cour de récré, quoi. Et en ce moment, il est un peu mis à mal. Si j'ai bien compris, si ce que j'entends, ce que des profs me disent ou des ados. Voilà, donc il y a cette question-là aussi dans la place du cœur. Il y a la tragédie de la grande histoire avec un grand H, et puis il y a la petite histoire aussi, qui parfois est tout aussi douloureuse, dans une cour de récré.
Et ce roman a une résonance, je trouve, toute particulière avec un autre de vos projets, donc un album qui était à la base un livre... appelé Frère Animal, où on suit un jeune homme, Thibaut, qui...
C'est l'album que j'évoquais tout à l'heure, que j'ai fait avec Florent Marchais. Voilà.
C'est ça, qui est complètement désœuvré et qui va finir par s'engager dans un mouvement identitaire d'extrême droite. Est-ce que déjà vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce projet, comment il est né, comment ça s'est fait? Parce que
Frère Animal, même... c'est l'épisode numéro 2 d'une aventure qu'on a lancée avec le chanteur Florent Marchais en 2007. Et à l'époque, on avait fait ça chez mon éditeur, chez Gallimard. Donc, c'était un livre-disque. C'est devenu une tournée, un spectacle. Et c'était l'histoire du même Thibaut, qui était un jeune homme très défavorisé, et dont les parents n'avaient pas les moyens de l'envoyer ailleurs qu'à l'usine de la ville. Et c'était l'histoire de cet adolescent, ce jeune adulte, qui faisait une sortie de route, qui subissait la violence de la société néolibérale, quoi. Et donc c'était un livre-album qui parlait notamment de l'aliénation au travail. Et on a souhaité se retrouver avec tout le groupe et Florent pour écrire un numéro 2. Et on s'est dit qu'on allait reprendre notre Thibaut, qui est toujours désœuvré, dont la société n'a toujours pas très envie. Et on avait envie de parler de tous ces jeunes qu'on ne regarde plus, quoi, qu'on ne considère plus, et qui eux aussi sortent de la route, alors pour faire des choses incomparables, mais ça peut être effectivement soit le djihad, soit croire effectivement que l'extrême droite est républicaine. Et voilà, on voulait, contrairement à un ministre qui, il y a quelques mois, a dit que comprendre, c'était excuser, chose qui me vrille le tympan, moi, personnellement. Avec Florent, on s'est dit qu'on allait écrire une histoire, une fiction, pour essayer un peu mieux de comprendre pourquoi les gens votent Front National, pourquoi des mômes partent en Syrie faire le djihad. Non pas du tout pour excuser tout ça, mais, en se disant que tant qu'on ne serait pas beaucoup à essayer de comprendre... ça continuerait et qu'on irait au mur. Parce qu'il y a bien une raison, quoi. Si des gens font des choses comme ça, c'est qu'ils sont mal, c'est qu'ils ne sont pas considérés, c'est qu'ils sont perdus, c'est qu'ils sont égarés. Et si on ne s'en occupe pas, si on ne prend pas ça en considération, ça va aller de mal en pis. Voilà. Donc c'est effectivement l'histoire, frère animal, d'un garçon qui va se perdre dans une idéologie qui n'est pas la sienne en plus. Parce qu'il ne fait pas du tout ça par idéologie, il n'est pas raciste, il n'est pas...
Oui, c'est pas par
conviction. Juste, il veut trouver une famille. Et il se trouve que c'est un groupuscule politique qui lui tend la main. Ce sont les seuls à le regarder, à le considérer, donc il y va.
Oui, un moment de faiblesse, comme on peut être attiré aussi
ouais, parce que
par
je crois
d'autres
qu'il y a,
types d'organisations.
Il y a des gens oui, qui font des sorties de route par colère, par ressentiment, par frustration, par sentiment d'injustice aussi. Parce que, ouais, très simplement, on les regarde pas. Et je pense qu'un être humain, il ne tient debout que s'il a la reconnaissance de l'autre. Si on ne le regarde pas, il tombe. Ou alors, il fait n'importe quoi. Donc c'est un peu ça l'histoire, et c'est un peu lié à la place du cœur aussi, hein, parce que ce Nicolas Ballard là, qui rackette et maltraite Hakim, qui est de confession musulmane, ce Nicolas Ballard, il doit être mal lui aussi. Et je dis ça pas pour l'excuser, hein, mais parce que voilà, moi je suis pas politique, je suis pas en campagne, donc je suis plutôt romancier, et donc mon but c'est plutôt d'essayer de comprendre, voilà, avant de juger, certes, on ne peut pas s'en empêcher, mais aussi de comprendre, dans l'intérêt de la collectivité. Alors, une personne, ça ne suffit pas. Je crois qu'en ce moment, de toute façon, on est beaucoup à se poser mille et une questions et essayer d'avancer ensemble. Il va falloir, du moins.
Oui, il faudra, tant qu'on peut. Il y a un autre point commun, j'ai trouvé, encore une fois, entre Frère Animal et À la place du cœur, c'est que le roman s'ouvre sur des paroles d'un morceau du groupe Fauve, qui sont très adeptes aussi du parler chanté, dont vous êtes adeptes aussi dans Frères Animal. Est-ce que c'est un groupe qui a eu une importance ou qui a une importance pour vous, ou c'est purement, purement le hasard ?
Non, Fauve, c'est un groupe qui m'a impressionné. C'est extrêmement exaltant, je trouve, d'être impressionné par ce que font les jeunes, les petits jeunes. Et de ne pas en rester à sa propre génération. Ça peut d'ailleurs, je pense, être... Faut être très vigilant à ça, parce qu'à mon avis, on peut être assez vite satisfait de sa génération, ou en reconnaissance par rapport à la génération qui nous a précédés, dont on est l'héritage. Et en fait, voilà, le vivier, les jeunes pousses, ont en fait autant à nous apprendre. C'est fou ça, en fait, que ceux qui nous ont précédés. Et Fauve, cette écriture, mais je trouve ça aussi fort que du Barbara ou que du Ferré. C'est un autre lexique, c'est un autre rythme, c'est une autre culture. Mais c'est dingue d'écrire ça. J'adorerais pouvoir écrire ça. Et je sais que ça a beaucoup marqué certains ados, donc étant passionné de musique, j'aime bien que la musique rentre dans mes livres aussi. Voilà. Alors, je fais rentrer dans mes livres Barbara, Brigitte Fontaine, tout ce que vous voulez, mais pourquoi pas aussi Fauve. Dans le tome 2, ce sera Kassem Wapalek, qui est un jeune slammer que j'aime beaucoup aussi. Voilà.
Bon, j'espère juste que vos cours de piano ne ressemblaient pas du tout à ceux que donne Madame Berthier à Côme.
C'est exactement Alors, c'est... ça, c'est une des parties autobiographiques du livre.
Si vous ne connaissez pas encore Madame Berthier, je vous invite vraiment à la découvrir.
Alors, je vais nuancer un tout petit peu les choses. J'avais un grand-père, mon modèle, mon héros, donc mon grand-père maternel, qui était organiste et facteur d'orgue, et à la base, c'est lui qui m'a appris le piano et tout ça. C'est lui qui m'a mis à la musique quand j'étais adolescent. Mais j'ai aussi pris des cours classiques avec une dame dont je tairai le nom, paix son âme. C'est dommage parce que son nom était hyper drôle, mais bon, je le dis pas. En plus, on est enregistré là, je crois. On n'est pas entre intimes. Et effectivement, elle était très, 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 très raide. Et un jour, alors déjà, elle avait décidé que je ne jouerais que du Chopin, parce que j'avais des mains qui permettaient de faire des écarts chopiniens. Et les autres élèves, non. Donc, voilà. J'avais que du Chopin, j'avais le droit qu'à ça. Et je n'en pouvais plus de Chopin. En plus, je n'aime pas Chopin. Et un jour, j'ai eu le malheur de lui parler de Gainsbourg, je me souviens, puis d'Éric Satie. Alors, un chanteur un chanteur et puis un musicien quand même que je considérais comme, enfin qu'on peut considérer comme classique quand même. Et alors elle a hurlé, elle a failli faire une crise cardiaque. Pour elle, c'était la vulgarité incarnée. Et donc c'était bien parce que c'est bien de qu'on vous enseigne les bases, la rigueur. Puis elle m'a fait jouer des choses qui n'étaient pas faciles. Donc c'est bien de se frotter à ce qui n'est pas facile. Mais j'étais et content de quitter ses cours et content de quitter Chopin, ouais, quand même. Et du coup, je me vengeais dans son dos et j'étais passionné par Véronique Sanson et William Scheller. C'était mes deux idoles. Et donc, dans son dos, chez moi, je jouais du Scheller et du Sanson. Je beuglais de la variété française. Voilà. Et de là m'est venu cet immense respect que j'ai pour la variété dont on dit souvent que c'est un art mineur. Enfin, c'est Gainsbourg qui a fait une provoque avec ça. Et voilà, moi je crois que c'est un art majeur, la chanson, dont Fauve.
Je relirai ce passage, maintenant que je sais que c'est autobiographique, il m'a beaucoup fait rire. Et pour un peu plus de légèreté, il y a un autre passage qui m'a fait hurler de rire. C'est le moment où Côme se remémore son premier baiser avec une certaine Clélia.
Pourquoi tout le monde me parle de ce passage?
Parce qu'il est génial. Je pense qu'il est très révélateur.
Je pense qu'on l'a à peu aussi. Près.
On l'a tous vécu. Et peut-être qu'on veut tous l'avoir oublié assez rapidement. Parce que c'est un moment gênant.
Mais c'est ça qui est beau quand on se retourne, quand on commence à avoir un peu d'indulgence vis-à-vis de soi. C'est ces moments pendant l'adolescence ou même pendant la vie où on a été ridicule, très ridicule et pathétique. Et quand on arrive à ne plus se prendre en grippe et à ne plus avoir honte, mais juste à sourire, je trouve que c'est des chouettes moments. Et donc oui, comme c'est pas si, il faut mettre la langue en France pour embrasser une fille. Bon,
vous voulez
bah voilà.
Vous voulez pas nous lire plutôt ? Allez.
Alors, je sais plus comment elle s'appelle cette pauvre Clélia. Fille, Clélia, la pauvre d'être tombée sur Côme. Donc ils ont rendez-vous dans un vague parking pour s'embrasser, quoi. J'ai oublié de quoi a été fait notre embryon de conversation, de silence pesant probablement. À un moment, j'ai dit cette chose formidablement engageante. Alors, on le fait ? Nos visages se sont approchés, lèvres entrouvertes, opération ventouse, clac, contact. Je suis un sale con, mais pas débile. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'absurde à rester ainsi dans un bouche-à-bouche asphyxiant. Je l'ai prise dans mes bras, comme le font mes grands-parents quand ils dansent la valse dans les mariages, moins porno, tu meurs. Et c'est à peine si nos corps se touchaient au final. C'est alors qu'elle a eu un geste de recul, elle m'a demandé pourquoi je ne mettais pas la langue. J'ai aussitôt traduit en moi-même, il faut mettre la langue. J'ai dit bêtement, si si, réplique tout à fait brillante d'un point de vue grammatical quand on y réfléchit, et je suis retourné au taf. Deux bulots qui se dressent et se glissent l'un contre l'autre. C'était pas autre chose que ça. Elle sentait bon, Clélia, quand même. Mais c'était chiant à mourir. Bon, j'ai fait durer un peu, par politesse. Elle a fermé les yeux et ça lui donnait un air très inspiré. Moi, je voyais derrière nous des gens pousser leurs caddies et charger leurs courses dans les coffres des bagnoles. J'avais même pas envie de rire, juste d'en finir. Je l'ai raccompagnée à pied chez elle et l'affaire a dû se conclure par un souriant « à plus ». Bah ouais, parfois les premières fois, c'est raté.
Mais c'est drôle.
Après, c'est drôle, ouais.
Et ce qui est intéressant dans ce roman aussi, c'est que vous abordez plusieurs formes. C'est ce qui révèle énormément de justesse, je trouve. On va retrouver des SMS que ses amis s'envoient entre eux, des bribes de conversation.
Des SMS avec les fautes d'orthographe respectées.
Voilà, c'est ça, vous avez gardé les fautes d'orthographe, ce qui paraît encore plus réel.
C'est hyper drôle d'écrire en faisant exprès de faire des fautes d'orthographe, c'est intéressant.
Je ne pense pas que les ados le fassent exprès, mais il faudrait leur poser la question. Et il y a notamment un passage qui écrit sous forme théâtrale, qui est une scène, mais justement on parlait de cette mort en direct où c'est une conversation avec Hakim, Théo, Esther et BFM, ce qui est assez étonnant, est un protagoniste à part entière.
Ben oui, ça a été un personnage de cette semaine-là, BFM, ou iTélé, ou je ne sais pas qui. Oui, c'est un personnage. Bon, après, le côté théâtral de certaines scènes, c'est pour des questions de rythme. Parce qu'il y a des fois je veux des accélérations, d'autres fois c'est des monologues intérieurs qui du coup font un temps beaucoup plus distendu. Donc ça c'est des questions musicales et des questions de rythme. Mais en tout cas, oui, je ne peux pas dire autre chose que ce que vous venez de dire. BFM a été un protagoniste à part entière, au statut douteux et à discuter.
Et ça les rend presque tous acteurs de cette scène qu'ils sont en train de vivre. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. C'était voulu, justement, cette forme théâtrale à ce moment-là.
Ouais, parce que j'avais pas envie de m'embarrasser avec du monologue intérieur, avec des didascalies, avec des... Souvenons-nous, dans ce moment-là de janvier, dans ce moment-là du 13 novembre, qui sera dans la saison 2, il n'y avait que ça qui existait, quoi. Cette parole qu'on avait envie de roudoyer, en plus, parce que parfois elle radotait, quand il n'y avait plus rien à dire que ce qui venait de se passer et qu'on n'en savait pas encore plus. Donc, soit ça radotait, soit ça prononçait la chose effroyable. Et on a tous vécu sous dictature de BFM, de cette voix-là en tout cas, de cette voix horriblement théâtrale, pendant quelques jours. Ouais. Il a fallu s'en détacher, c'est une espèce d'horrible commandeur, quoi, pour prendre un mot qui est connoté d'un point de vue théâtral. C'était le tragique commandeur 2.0 BFM cette année-là, en 2015.
Et je me demandais aussi pourquoi avoir eu envie, tout simplement, d'écrire à la place d'un adolescent. Pourquoi pas un livre où un adulte s'exprime sur son ressenti, sur ce qu'il a vécu.
Toujours parce que quand ça s'est passé dès Charlie, je me suis dit, l'histoire de cette génération commence sans doute aujourd'hui. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, quitte à écrire là-dessus ou quitte à écrire un livre qui prenne en compte ce réel-là, je veux le destiner aux ados, je veux leur dire quelque chose. Est-ce que cette série, elle veut dire, parce que le tome 2 va sortir dans quelques mois, c'est un peu ce que j'ai dit au début de notre rencontre, qu'il faut faire quelque chose de cette tragédie, notamment la garder en mémoire et essayer de faire en sorte que ça ne... que ça réarrive le moins possible, mais il ne faut pas transiger sur la joie, voilà, et sur l'insouciance. Et ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'on n'a pas le droit d'être écervelé, bête et beau dans son inconsistance parfois. Enfin, tout ce qui fait la joie, quoi, tout ce qui fait le... Voilà, il faut tout pour faire une vie et une année. Et... J'ai eu super peur, en fait, qu'il soit complètement plombé par ces événements. Et qui se disent, parce que c'est quand même ça la vérité, quoi, qui se disent c'est ça le monde qui nous attend. C'est ça notre monde, quoi. Et ça me fait peur qu'ils se disent ça. Enfin, ça me fait peur. C'est une partie de la vérité. Mais alors, je sais pas si ce livre, c'est une goutte d'eau. Mais si c'est dans cette goutte d'eau, il y a voilà, ces scènes où ça ricane bêtement, ça fait l'amour, ça trouve une fille belle. Ça picole et ça explose de rire. C'est ça aussi la vie, quoi. Même après Charlie, même après le 13 novembre. Je voulais que ce livre porte cette trace-là, et puis on sera plein à délivrer ce message. J'aime pas ce mot message, mais à témoigner de ça. Y a plein de gens, et dans la vie ordinaire, et dans les livres, et au cinéma, et en musique, qui je pense, sont dans ce réflexe-là. C'est vous tout à l'heure qui avez dit ça, je crois, que la meilleure réponse à la barbarie, c'était d'être vraiment en vie, quoi. De continuer à rire, à faire l'amour, à s'amuser, à être bête parfois. À aller sur les terrasses de café, ça je l'ai vu dans mon quartier au lendemain du 13 novembre, quoi. C'était super important pour nous de retourner boire un petit café... en terrasse de café, quoi. Affirmer ça. Bon, tout ce qu'on connaît, hein, tout ce qu'on a, je ne dis là des choses qu'on sait, parce que
mais ça fait aussi
il y a eu déjà beaucoup de commentaires là-dessus. Mais voilà, je pense à eux, en fait. J'ai pas pensé à nous, à notre génération ou aux générations précédentes. J'ai pensé à eux. Je me suis dit, tiens, les enfants et les adolescents qui ont pris la mesure de ce qui s'est passé, pourvu qu'ils croient encore à la possibilité de la joie, quoi.
Et parmi tous ces personnages, un petit peu, non seulement qui gravitent autour de Côme, mais Côme aussi, est-ce qu'il y a un peu de vous ?
Partout. Dans mais tous. Ça, c'est le... Enfin, sauf chez Nicolas Ballard, parce que lui, c'est vraiment un petit con, dont il faut s'occuper, cela dit, il ne faut pas le laisser tout seul. Il a le droit qu'on s'occupe de lui. Mais je me distribue toujours dans tous les personnages. Esther a beaucoup de moi. De toute façon, je mets toujours beaucoup de moi dans les filles, parce que je me reconnais beaucoup dans les figures féminines. Et Hakim aussi, et Com. C'est agréable aussi, hein. C'est comme un plaisir de comédien, ça, hein, de se distribuer, de mettre des parts autobiographiques de soi dans des personnages où, a priori, on se dit que les gens n'iront pas nous chercher. C'est une façon de désarmer sa pudeur et d'y aller.
Et le choix de ce titre, À la place du cœur, il vient
de... Ah, alors moi, au début, j'avais appelé ça... Je me suis fait retoquer mon titre par mon éditeur. Ça s'appelait 17 ans en France. Et puis c'est peut-être le « an-an » qui, d'un point de vue musical, n'a pas plu. Et donc j'ai fait comme je fais d'habitude, quand j'achoppe sur la question du titre, dans ces cas-là, je relis pour la 1500e fois le livre, et je me dis « le titre doit être dans le livre ». Et il se trouve que cette expression revenait à plusieurs reprises. Donc je me suis dit « ça va s'appeler « À la place du cœur ». Parce que c'est ça aussi qui se dit comme, hein. Il y a la place du cœur, parce que son cœur est rempli par Esther, mais il y a cette problématique importante aussi qui est, puisque son cœur est rempli par Esther, il culpabilise beaucoup. Il a l'impression qu'il n'a pas assez de place dans son cœur pour tous ses morts.
Mais c'est triste.
Et il se demande, qu'est-ce que j'ai à la place du cœur pour ne penser qu'à Esther alors qu'à Paris, des gens sont morts. Voilà.
Et puisqu'il est question d'une saison 2, alors, je vous avoue, en toute honnêteté, que quand j'ai terminé ce livre, j'ai vu qu'il y avait marqué saison 1, donc je m'attends à une suite, évidemment. Mais la manière dont il se finit, sans spoiler, on ne voit pas bien où on peut aller après.
Vous verrez. J'ai fini, donc moi, je sais. On peut aller vers la lumière, notamment, vers l'horizon. On peut aller vers Bordeaux, parce que ça se passe entre autres à Bordeaux et à Arcachon. Il y a de longues...
Chez son cousin ?
De longues photos, ouais, le cousin va entrer en scène et donc on sera à la ville d'hiver, au Moulot, à Bordeaux, sur les plages océanes. Et on peut se relever de tout ça et le tome 2, c'est ça l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces événements de 2015 et comment on invente tous les matins en se levant la vie. Voilà. Mais si, il y a des choses à faire.
On suivra les mêmes personnages ou
ça, tout savoir. Ça,
mais, non, mais un petit peu.
Il y en aura plus. C'est un roman choral. On suivra le cousin, on suivra Esther et on retrouvera une fine écume.
D'accord. Et j'avais juste une dernière question concernant vos lectures. Est-ce que vous lisez, je pense que vous lisez un peu de littérature jeunesse. Quel roman vous a marqué
En littérature jeunesse spécifiquement?
Non, pas forcément.
Mais il y en a un qui m'a marqué à la rentrée de septembre de Clémentine Beauvais, qui s'appelle Songe à la douceur.
Sans rire.
Voilà.
Ce qui est génial.
Qui est un livre écrit en vers libre, ce qui est très culotté, et qui est un super livre d'amour, quoi. Elle arrive vachement bien à... Il y a toutes ces petites choses dont on parlait tout à l'heure qui sont un peu pathétiques parfois, ou tous ces symptômes amoureux qu'elle arrive à cerner avec un humour et une précision, une justesse. C'est un livre très audacieux, très libre, très inattendu, désarçonnant aussi. Chez Sarbacane, un beau livre, ouais. Voilà, en littérature jeunesse, le dernier qui m'est beaucoup, beaucoup plu.
Oui, je crois qu'il a fait à peu près l'unanimité chez nous, de toute façon. C'est vrai qu'on était un peu étonnés, d'ailleurs. Au départ, cette forme en vers libre, on se dit, oh là là, mais est-ce que... Comment ça va se passer? Est-ce que je vais tenir toute une lecture comme ça? On s'imagine que ça va être
En fait,
compliqué.
On s'aperçoit que notre œil est formaté.
Oui.
Il y a des calligrammes aussi. Et en fait, c'est très accessible. C'est une narration en prose tout à fait presque classique, je dirais. Sauf que le texte est mis en scène. Il danse. Plutôt que d'être en ligne droite comme ça. Ouais, c'est la seule expression qui me vient. L'histoire danse. Et elle se permet des figures qui sont très étranges. Mais une fois que notre œil a accepté ça, il suit, mais alors sans rechigner, quoi, et sans lassitude, parce que c'est un livre qui doit faire 300 pages. Et alors que quand un auteur se permet des libertés comme ça, ça fait du bien, quoi.
Oui, c'était culotté à la base, quand même. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.